Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imaginez une seconde, vous êtes dans une salle NBA, la première mi-temps vient de se terminer, et là, LeBron James revient sur le parquet, il a une veste par-dessus son maillot et son short, dans ses mains, un accordéon, c'est parti, il revient pour assurer le show de mi-temps. Tout ça avant de revenir jouer la deuxième partie du match. Ça vous semble dingue ? Et pourtant, c'est exactement comme ça que les Boston Celtics ont été sauvés dans les premières années de leur vie. Tony Lavelli, l'accordéoniste qui a sauvé les Boston Celtics, c'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans Histoire de Basket. Franchise la plus titrée de l'histoire avec 17 titres comme les Lakers, les Boston Celtics ont bien failli disparaître. C'était au tout début de la NBA, à la fin des années 40. À l'époque, le propriétaire Walter Brown ne sait plus quoi faire. En cette année 49, le Boston Garden sonne désespérément creux avec 4000 spectateurs de moyenne alors que la salle peut en accueillir plus de 13 000. Le propriétaire des Celtics tente tout ce qu'il peut pour faire venir des fans. Il organise un match à minuit, il délocalise une rencontre à Providence, mais c'est un fiasco, seulement 216 personnes se rendent à la salle. Également propriétaire du Boston Garden et de l'équipe de hockey des Ice Capades, il ne se résout pas à vendre les Celtics qui lui coûtent pourtant extrêmement cher. En 4 ans, il a déjà perdu plus d'un demi-million de dollars, c'est une somme énorme pour l'époque. Il a mis sa maison en hypothèque, vendu une partie de l'équipe de hockey sur glace pour permettre à sa franchise NBA de survivre. Sa femme Marjorie racontera plus tard que de nombreux amis disaient à Walter Brown d'abandonner. D'ailleurs, elle aussi l'encourage à laisser tomber les Celtics. À une époque où le basket professionnel n'intéresse personne, pas même les journaux, les Celtics sont donc sur le point de disparaître. Mais Brown aime tellement cette équipe qu'il ne lâche pas. Les Celtics sont ses bébés et il veut y croire encore. En 1949, il n'y a toujours personne lors des matchs. Alors après la 13e rencontre de la saison, désespéré par ce manque chronique d'affluence et miné par les dettes, il supplie Tony Lavelli de rejoindre son équipe. Passé par Yale, cet ailier est une star universitaire et un héros local qui maîtrise le hook shot comme personne, mais ce qui intéresse vraiment Walter Brown, ce sont ses dons d'accordéoniste.
Tony Lavelli. Now Tony became famous at first as an all-American basketball player for Yale University. And since that time, he's been building a musical career for himself, playing the accordion in clubs and theaters around the country. And here he is, you'll enjoy him, Tony Lavelli. And...
Le basketball était un métier que j'aimais, confia plus tard le joueur musicien à Sports Illustrated. Mais je voulais surtout faire de la musique. Walter Brown et Maurice Podoloff, le patron de la NBA, ont été très convaincants et je me suis rendu compte que cela pouvait aider ma carrière dans le show business. Walter Brown lui offre un beau contrat de 13 000 dollars pour l'année. Maurice Podoloff, le prédécesseur de David Stern et Adam Silver, propose de le rémunérer 125 dollars en plus pour chaque concert qu'il fera à la mi-temps. Des concerts, il en donnera 25 sur les parquets NBA. Au total, le joueur accordéoniste est presque autant payé que George Mikan, la star de l'époque qui évolue aux Lakers et qui touche 17 000 dollars par saison. Tony Lavelli donne un concert dans chaque ville. On lui demande si c'est fatigant de jouer de l'accordéon après une mi-temps de basket. Pas vraiment, répond-il. J'avais quelques minutes pour me reposer dans les vestiaires, je mettais ma veste, je prenais mon accordéon et un peu avant le début de la seconde mi-temps, je jouais, j'adorais jouer de l'accordéon devant les spectateurs. En sueur, avec son short et son maillot sur le dos, Tony Lavelli joue si bien qu'il réussit l'impossible, attirer les journalistes au Boston Garden pour voir du basket. Le Boston Globe et les autres quotidiens se mettent à parler des rencontres des Celtics, parfois même l'équipe a droit à deux articles, un dans la rubrique sportive, un dans la rubrique culture, et le public grossit. Walter Brown voit un peu d'espoir et récupère enfin un peu d'argent. Même si son équipe ne brille pas particulièrement sur les terrains avec 22 victoires pour 46 défaites cette année-là, mais l'important, c'est que les Celtics sortent la tête de l'eau sur le plan financier. La carrière sportive de Tony Lavelli prend fin peu de temps après. Le mythique Red Auerbach est nommé coach de l'équipe la saison suivante et il vire le joueur avec fracas malgré ses 9 points de moyenne par match. Il dégage, explique Auerbach sans diplomatie, il n'est pas assez dur pour le basket professionnel et je n'ai pas le temps de faire des sentiments. Walter Brand suit son coach et récupère un autre héros local, Bob Cousy, dans la foulée. Les premières pierres de la dynastie des Celtics sont enfin en place, mais si la maison est encore là, c'est parce qu'elle a été en partie maintenue à flot financièrement par les prestations à l'accordéon de Tony Lavelli, qui faisait venir le public en jouant Lady of Spain ou des morceaux de Rossini à la mi-temps des rencontres. Les années suivantes seront toujours délicates pour les Celtics, mais c'est la télévision qui assurera leur pérennité. Le premier match retransmis qui oppose l'équipe aux Knicks est spectaculaire et permet enfin de faire ça le comble. L'équipe est sauvée. Tony Lavelli jouera, lui, une saison aux Knicks tout en cherchant à décrocher des rôles dans des films. Finalement, en 1950, il part 2 ans avec les Harlem Globetrotters. Ensuite, il écrira des chansons, sortira quelques disques et gagnera surtout sa vie en se produisant avec son accordéon dans des clubs. Il s'est éteint en 1998 à la suite d'une crise cardiaque. Il avait 71 ans. À la question de savoir s'il a sauvé les Celtics, voici ce qu'il répondait. Certains le disent et je crois qu'il y a du vrai là-dedans. Vous y penserez la prochaine fois que vous regarderez jouer Jason Tatum et ses coéquipiers.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.